partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Mauger.
Voici la suite de l'histoire de l'aéropostale dont on fêtait en juin 2007 le 80e anniversaire, racontée par Axel Mauger. Cette deuxième émission appartient à une série de trois, toutes disponibles dans notre médiathèque.
Dès le 16 avril 1928, Mermoz effectue les premiers vols de nuit afin d'améliorer les performances. Bientôt, grâce à lui, la liaison Rio-Buenos Aires se fait en un seul jour. Les pilotes prennent de tels risques que certains ne reviennent jamais, comme Fabien, le héros de vol de nuit, je cite. Il aurait pu lutter encore, tenter sa chance. Il n'y a pas de fatalité extérieure, mais il y a une fatalité intérieure. Via une minute où l'on se découvre vulnérable, alors les fautes vous attirent comme un vertige. À partir de ce moment, les hommes de ligne accomplirent entre Rio et Buenos Aires des prouesses hebdomadaires que, l'année précédente, on eût qualifié de raides, écrit encore Jean-Gérard Fleury. Quand nous pensons à la vitesse à laquelle cet avion nous emmène vers la France et ce que nous devons à ces pionniers qui se sont sacrifiés pour que nous allions plus vite, plus loin et toujours dans de meilleures conditions, nous sentons monter en nous un peu de leur énergie exceptionnelle. La vie de ces hommes n'est-elle pas d'une modestie exemplaire? Et pourtant, ils nous tirent de la médiocrité, nous haussent à une vérité humaine, à ce bonheur qui ne se trouve pas dans la liberté anarchique, mais dans l'acceptation d'un devoir. Ces pilotes étaient appréciés pour leur droiture, leur enjouement, leur esprit d'initiative. Résultat de ces efforts démesurés, en 1928, on parcourait les 10 000 km séparant Toulouse de Buenos Aires en à peine moins de 4 jours, contre 15 en 1924. 10 ans plus tard, malgré la mise en service d'avions plus rapides, on ne faisait pas mieux. Essayons d'imaginer un instant Jean Mermoz aux commandes de son avion lors de la première traversée de l'Atlantique Sud, alors qu'il approche du poteau noir. Nos pensées se tournent vers cet équipage ardent formé par l'aviateur légendaire et Colneau, son mécanicien, ce garçon silencieux qui ne l'appela jamais autrement que « Monsieur Mermoz » fut, dit-on, son meilleur ami. Comme celui que l'on appelait l'archange, le personnage de Saint-Exupéry apparaît lui aussi impressionnant. Je vais donc faire une citation d'Henri de Ségogne dans un entretien qu'il a accordé à la revue Icare. Il parle de Mermoz, bien sûr. Il restait toujours au-dessus de la mêlée. Ce n'était pas un homme de parti, c'était un être de bonne volonté, droit, loyal, authentique et noble par excellence. Il vivait d'une vie intense, passionné par l'évolution d'une société orientée vers l'avenir, préoccupé du bonheur de l'homme, non pas qu'il vit ce bonheur se réaliser dans des conquêtes purement matérielles, mais par sa promotion à une condition supérieure. Grâce à l'action de ces hommes acceptant de prendre mille et un risques au milieu de l'année 1928, les vols de nuit étaient couramment pratiqués. La ligne du Paraguay existait. Toujours en 1928, Mermoz réussit l'exploit de franchir le Brésil en une seule journée, d'un seul vol, d'est en ouest, prouesse qui ne fut jamais exploitée. Réalise-t-on une seconde la résistance musculaire qu'il fallait à ses pilotes pour affronter les zones de mauvais temps, les orages terrifiants, les vents violents? Certainement pas. Soudain, mu par, nous ne savons trop quelle nécessité, le besoin de toucher avec notre main droite le revêtement de plastique qui entoure le hublot nous prend, même s'il n'a rien à voir avec le longeron d'acier que Fabien, le pilote perdu de vol de nuit, effleurait du doigt pour sentir le métal ruisseler de vie. Je cite, « Le métal ne vibrait pas, mais vivait. Nous avons l'impression fugitive de nous unir un bref instant à lui. » Une infinie passion pour l'aviation habitait ces hommes. Et ce, à un point tel, nous a raconté à l'époque Jean-Gérard Fleury, un intime de Mermoz, que ce dernier lui a appris les joies de l'aviation parce qu'il trouvait impensable d'avoir un ami ne sachant pas voler. Faute de temps, Mermoz n'apprendra à piloter qu'à une seule autre personne, mais quelle personne? Marcel Bouilloux-Lafont. C'est encore Mermoz qui réussit à vaincre le passage des Andes afin d'établir une liaison avec le Chili. Dans sa biographie de l'aviateur, Joseph Kessel raconte les aventures à vous couper le souffle du héros. Les pages que consacre Jean-Gérard Fleury sur ses différents exploits sont également stupéfiantes. n'alla-t-il pas un jour jusqu'à risquer sa vie pour amener le corps d'un de ses compagnons, le pilote argentin Ficarelli, lequel s'était perdu dans la brume au-dessus du Paraguay et avait percuté une montagne. Je cite, « Pareil à ces voleurs des villes fabuleuses murées dans la chambre au trésor, dont ils ne sauront plus sortir, parmi des pierreries glacées, Fabien et son camarade errent infiniment riches mais condamnés. Courage, ténacité, volonté, pousser ces pilotes à prendre tous les risques. Une fois en Patagonie, Saint-Exupéry resta plus de 5 heures aux commandes de son avion afin d'effectuer un trajet de 240 kilomètres. Au retour, ayant cette fois les vents favorables pour lui, c'est-à-dire derrière lui, il mit seulement 12 minutes pour franchir la même distance. Inouï, n'est-ce pas ? Dès 1929, Saint-Exupéry et Mermoz, aidés par l'as de guerre Artigan, organisèrent l'Aéropostale Argentina. À eux trois, ils formèrent une première équipe de pilotes à laquelle appartinrent entre autres des héros comme Ficarelli, Salvetti, Gross, Palazzoli et Lusso Cambaceres, descendants d'une famille d'origine française. À partir de 1930, Mermoz, à la fois vainqueur de la Cordillère des Andes et de la traversée de l'Atlantique Sud, traversée qui dura 21 heures, devint un héros incontesté sur le continent américain. Nous reprenons ici les propres mots de Jean-Gérard Fleury pour illustrer le personnage audacieux. Je cite « Mermoz ne se laisse pas arrêter par le mur des impossibilités, il le saute ». Grâce à ses chevaliers du ciel, à ses équipes exemplaires, il n'est pas étonnant qu'au fil du temps, l'aéropostale soit devenue une sorte d'ambassade volante. Ses succursales, ses aérodromes, ses stations étaient en effet des coins de France où se réunissaient de fervents amis. Encore aujourd'hui, l'exploit de Guillaumet reste présent dans de nombreuses mémoires. Et qu'était-il arrivé à Guillaumet ? Eh bien, il était arrivé une chose terrible, c'est évidemment de s'écraser sur la cordillère des Andes. Alors, j'ai retrouvé un texte tout à fait intéressant du journaliste Charlie Buffet qui a été publié dans Le Monde du vendredi 22 juillet 2005. Et je lis juste quelques extraits de ce texte intéressant. Le récit qu'Henri Guillaumet a fait de ses 5 jours de marche harassante est confus comme un mauvais rêve. Tout se mélange, les jours et les nuits, les altitudes et les décisions. Il avale 3 comprimés de quinine par jour de crainte de faire un accès de paludisme, mais oublie de faire fondre de la neige. D'ailleurs, ses allumettes sont toutes humides. Il passe un col et revient sur ses pas, suit un ruisseau où il pourrait boire, mais croque de la neige fondue pour faire passer les conserves froides. Il oublie un de ses gants, puis sa boussole. Il marche dans l'eau glacée d'un torrent, trempe ses habits et sa précieuse valise, chute, se relève, chute encore et perd sa valise, s'écorce les genoux, fend ses chaussures pour libérer ses pieds gonflés par les engelures. Telle était la vie du naufragé, évidemment, des Andes, et c'était terrible. Quand la nouvelle se répandit qu'il avait triomphé de la montagne, Saint-Exupéry alla à sa rencontre, Guillaumet, ratatiné comme une vieille femme, lui avoua, je cite, « Une bête n'aurait pas fait ce que j'ai fait ». Les ailes du courage, moyen-métrage de Jean-Jacques Hano, rappelle l'épopée des pionniers de l'aéropostale grâce à l'image IMAX 3D. Ce film qui montre en direct l'aventure de ces héros propulse le spectateur au cœur de l'action. L'illusion est totale. Le spectateur sable le champagne avec Saint-Exupéry, danse le tango avec Mermoz et escalade les Andes avec Guillaumet. La volonté de survivre de ces pilotes échoués dans des lieux parmi les plus inhospitaliers de la Terre force admiration. Leurs histoires sont des leçons de surpassement humain qu'il faut méditer. Stimulé par ces pionniers, l'enthousiasme de Marcel Bouillot-Lafont était illimité. Cet homme d'action visionnaire, cherchant toujours mieux à servir la gloire et les intérêts de la France, confia un jour à Mermoz qu'une fois l'aviation postale solidement établie sur l'Atlantique Sud, il comptait s'attaquer à l'Atlantique Nord. Encore là, il voulait gagner de vitesse ses concurrents. Aussi, pour atteindre le but qu'il s'était fixé, avait-il créé la Société portugaise d'études et de lignes aériennes en collaboration avec la Société des moteurs Gnome et Rhône. Le 30 septembre 1930, il signa un contrat avec le Portugal qui donnait à la France la clé de l'Atlantique Nord, rien de moins. Pris de court, anglais et américains durent s'incliner une fois de plus. La filiale créée par l'Aéropostale avait cependant une responsabilité de taille, celle d'aménager à ses frais les installations terrestres. Marcel Bouilloux-Lafont ne recula pas un seul instant devant l'immense tâche qu'il fallait accomplir. Bientôt, les installations du Magna furent considérées comme les meilleures du point de vue technique, si bien que les Américains, avides de s'en inspirer, multiplièrent les voyages d'études sur la ligne. Grâce à un valeureux groupe de pilotes, un continent s'ouvrait au monde et à lui-même, mais quand on constate que la réussite de l'Aéropostale fut réduite à pas grand-chose par la France des partis et des clans, cela devient pathétique. Je cite « Ce fut cette France-là qui anéantit la ligne, qui s'acharna à détruire ce que des hommes magnifiques avaient édifié au prix de leur sang », cite encore Jean-Gérard Fleury, « jugé par vous-même, en 1931, pendant que Mermoz essaie le Bernard 80, un nouvel appareil, l'Aéropostale est mise en liquidation. L'administration française avait encouragé Marcel Bouilloux-Lafont à s'endetter tout en lui promettant de l'aider. Abandonné, il dut affronter seul la crise économique de 1930 qui avait atteint de plein fouet une foule de sociétés sur lesquelles il s'appuyait. Nul doute que la prospérité du génial entrepreneur avait suscité la rivalité de puissants groupes adverses, peut-être même des intérêts étrangers, se considérant lésés par la foudroyante avance française en Amérique du Sud, alimentèrent-ils la campagne contre l'Aéropostale. Et tandis qu'à Paris, les politiques pérorent sur ce qu'ils ne connaissent pas, Saint-Exupéry continue inlassablement d'organiser un réseau aérien modèle en Argentine. Je cite, « Saint-Exupéry avait trouvé dans l'aviation tout ce qu'elle comporte de satisfaction, mais aussi de risque. Cette intensité poétique, cette possibilité de transporter l'émotion, cette occasion de parler aux hommes qui l'ont amené jusqu'à ce sommet exceptionnel qu'il occupe en littérature. Nous sommes affligés de lire que ce fut le gouvernement français, non pas les créanciers, rassurés par la progression des recettes, qui exigea le dépôt de bilan. Aussi, Didier Dora, immortalisé par la figure imposante de Rivière dans Vol de nuit, se retira-t-il, lui, l'entraîneur incomparable des hommes de l'Aéropostale ? Je cite, « Il songeait, nous ne demandons pas à être éternels, mais à ne pas voir les actes et les choses tout à coup perdre leur sens. Le vide qui nous entoure se montre alors. » Saint-Exupéry fut rappelé dans l'Hexagone, tandis qu'en Amérique du Sud, les nombreux amis de la France s'inquiétaient. Beaucoup ne comprenaient pas que notre pays allait laisser sombrer une œuvre qui servait sa gloire au moment où elle devenait prospère. Les États-Unis et l'Allemagne profitèrent du retournement de situation pour placer habilement leurs pions. En traitant ainsi l'Aéropostale, le gouvernement français apparut moins francophile que les élites de plusieurs républiques sud-américaines. »